Le retour à la Terre, partie 2. La gare était de style imprévu, mais polissé. L'employé qui recevait les billets fit un rond de jambe devant la vieille, première à passer. Rodolphe se ganta. Un chef de gare neuf faisait les honneurs de son établissement. Il jura soudain, comme au grand siècle, parce qu'un coq perché sur le rebord d'un chariot volait, à travers les lames d'un panier, le beurre d'un commissionnaire au hall central. Quoique trop astiqué et trop débrouillard, ce coq rassura Rodolphe. À coup sûr, il était arrivé à la campagne. Dès qu'il eut, lui, quatrième et bon dernier, donné son billet, il ôta ses gants. Puis, il souleva la valise aux 12 carnets et aux vêtements de bure. Rien ne pèse comme le papier. Mais Rodolphe savait bien qu'il arrive toujours un moment où un voyageur doit porter lui-même sa valise. Hors de la gare, il se trouva seul, orphelin. Il avait son livret militaire et de l'argent, mais aucune idée des mœurs ni du langage des peuplades parmi lesquelles il allait essayer de vivre. On sait, à Paris, qu'il est des campagnes arriérées où l'on ne comprend que le patois. L'envers de la gare semblait plus négligé, mais plus aimable que la façade ferroviaire. Affable, le chef regardait Rodolphe. Celui-ci craignait le fardeau de la reconnaissance. Il se souvint à propos qu'il faut se jeter à l'eau pour apprendre à nager. Il s'en alla donc comme un grand garçon. Le coq marchait devant lui, très digne. Rodolphe le suivit. Un coq mène toujours quelque part. En attendant de se condamner à la rusticité des serfs misérables, Rodolphe rêvait la bonne fortune de dîner au chapon fin, au bœuf couronné, ou tout au moins au lion d'or. À 50 pas, son guide le conduisit devant une maison à un étage, flanquée d'une assez vaste grange. Terminus Hôtel. Où pouvait bien se trouver Chercheboule, avec sa mairie, son clocher, ses auberges antiques et accueillantes? La route, un peu plus loin, tournait à angle droit. Les yeux levés au ciel n'apercevaient même pas la pointe du clocher. De grands arbres s'arrangeaient pour fermer tout espoir. Renonçant au chapon fin, Rodolphe entra au Terminus Hôtel. Laverdin, propriétaire. Pendant qu'on montait sa valise, il fit le tour de la salle. Un jambon pendait aux solives. Le jambon n'empêchait rien. Une carte piquée au cadre d'une glace annonçait « Terminus Hôtel, Telef, Chercheboule 0225, chambre confortable, eau, électricité, cuisine soignée, cave renommée. » Liqueur de marque, garage, voiture à volonté, coiffeur, English spoken. La campagne, par ici, est-elle bien cultivée? Demanda Rodolphe. Laverdin, propriétaire, lui tendit une seconde carte. Engrais chimiques et divers, scories de déphosphoration, phosphate naturel, superphosphate, nitrate du Chili, cyanamide, sylvinite, guano de poisson, soufre précipité, etc., etc. Le chef de train entra en redingote. « Je vous aurais fait porter vos bagages, monsieur, » dit-il à Rodolphe. Rodolphe offrit l'apéritif. Une jeune bonne en soie végétale apporta deux verres, puis le verre du patron, puis un autre encore. Le chef de gare prenait Rodolphe, non pour un marchand de cochons, mais pour un agent de la police secrète chargé de surveiller les menées du candidat communiste. Lui n'était pas communiste. Les communistes, il les envoyait baigner, mais pas d'ennemis à gauche. Contre toute attente, il ne but que son apéritif. Obligé de se retirer, il envoya son homme d'équipe. Celui-ci était du syndicat jaune. En dehors du service, d'une courtoisie glacée, muet comme un jésuite compromis. Il but, sembla trouver la chose amère, salua. le bon chef de gare revint après dîner. Aidé de l'hôtelier, il apprit à Rodolphe la belote. L'homme d'équipe vint à son tour d'homme d'équipe et but la ciguë, strictement. Puis un Espagnol farouche s'attabla dans un coin sombre en face d'un Ukrainien échappé au pogrom. Enfin, on vit entrer un pauvre grand bonhomme, si évidemment paysan, que Rodolphe ouvrit subrepticement son carnet et tendit l'oreille. Le pauvre bonhomme voulait du 12-14 soluble au citrate d'ammoniaque. Si l'on essayait de lui refiler du 10-12 insoluble, il faudrait se compter d'eux. Laverdun fut à ses pieds et, à propos du 12-14, fit serment sur sa part de paradis. Altier, le bonhomme s'éloigna dans la nuit commençante. L'Espagnol et l'homme des steppes avaient mis chapeau bas. « Est-ce vraiment un paysan ?» demanda Rodolphe désorienté. « On dit plutôt un agriculteur, » répondit Laverdun. Partageant l'opinion du chef de gare au sujet de la mission de Rodolphe, il poursuivit plus bas. « Rien d'un communiste. Il a son fils bottier à Pipeau. Vous pourrez le voir demain, le fils. Il est en congé. » Rodolphe ne demanda plus aucune explication, craignant de paraître plus bête qu'il n'est permis à un agent de la police secrète. Il alla se coucher tout de suite, mais il eut des difficultés à s'endormir, car l'hôtelier, pour la satisfaction de sa clientèle cosmopolite, raflait les ondes hertziennes de provenance étrangère. Le lendemain, Rodolphe déjeuna au lait condensé. Puis il découvrit Chercheboule, un village quelconque à ne pas mettre en carte postale. Fumier, volailles, antennes de TSF, fils électriques, granges et garages, géraniums et belles de nuit. Rodolphe rencontra la vieille, au demi-soleil, sous un marronnier qui mourait de langueur, intoxiqué comme un marronnier de Paris. Elle savait déjà qu'il était agent de la police secrète, que son commerce de cochons, c'était pour la frime. Il la détrompa, assez difficilement d'ailleurs. Plus compliquée que le chef de gare, elle s'était mise en tête que, s'il ouvrait l'œil sur Moscou, ce n'était encore que pour donner le change. En réalité, il venait enquêter sur des points autrement délicats. Mœurs spéciales, avortement, infanticide possible, propagande malthusienne. Rassurée, elle ne demanda pas mieux que de bavarder. Elle ne voyait l'humanité que par en dessous et en position intéressante. Sa ligne d'horizon ne dépassait pas la ceinture. Elle ne prenait le mot « nature » que dans une acception toute spéciale, la 23e du litré. Elle l'employait par politesse et ajoutait d'ailleurs « sauf votre respect ». Elle comptait le temps par lunaison. La lune n'a jamais de retard. La vraie question n'était pas le communisme, pauvre chef de gare, mais ça. Et encore ça. Et toujours et partout, ça, ça, ça. Le bien et le mal, surtout le mal, venaient de ça. Rodolphe croyait à la vertu campagnarde, reste de la vertu des aïeux. La vieille riait. « Ici comme ailleurs, il y a à faire, » disait-elle. À Chercheboule et lieu circonvoisin, elle en avait guetté des bâtards. Ils se présentaient d'ailleurs comme les autres, 9 fois sur 10 par l'occiput. La mère en général bêlait moins. Les médecins la faisaient suer, elle, sage-femme diplômée. Leurs drogues sont plus sales que la saleté du chrétien. Tous les enfants légitimes ressemblaient à leur père. Des naissants de 7 mois qui pesaient 9 livres, elle en avait vu tant et tant. Et, pendant la guerre, ceux de 9 mois et demi, dont le premier cri était « Yes !» Elle savait ce qu'elle savait, mais elle ne disait pas. « Taisez-vous !» interrompit sévèrement Rodolphe. « Vous ne me ferez pas croire qu'en ce pays de Chercheboule, Des cornes, comme partout, pas plus, pas moins, juste autant. » Elle ne démontra pas cette égalité, mais répéta, cynique, « Il y a à faire. » Elle hocha la tête d'un air qui en disait long. Puis, « Vous penserez, si vous voulez, que je suis curieuse, mais puisque vous êtes de Paris, qu'est-ce que vous venez chercher par ici ?» Rodolphe ne pouvait pas lui indiquer la raison véritable de son séjour. Il biaisa. « Je viens passer quelque temps en villégiature, en vacances, si vous voulez. »«
Je garde un secret comme une tombe, » dit-elle.
Sans en retirer de grands avantages, bien des fois, elle avait travaillé discrètement à empêcher des scènes de ménage et peut-être des drames. Elle pouvait prendre une pensionnaire, procurer une nourrice.
Rodolphe se récria. Elle s'égarait complètement. Il n'y avait aucun secret, rien qui, même de loin, eût le moindre rapport avec ça.
Oh, « Il peut arriver une histoire à tout le monde, » dit-elle avec une tranquille assurance. « Elle faisait des mariages, si elle n'en défaisait pas. Voyait-elle un beau jeune homme comme Rodolphe ? Elle trouvait tout de suite chaussure à son pied. Il y avait, soit à Chercheboule, soit dans les environs, plus de ressources qu'on aurait pu le croire.
« Je vous remercie, » dit Rodolphe.
« Je mets mon bonheur dans le travail et la liberté. »
Cependant, il ne savait trop à quoi il occuperait son après-midi.
« Allez donc au cinéma, » lui dit la vieille. Désirant passer inaperçu, Rodolphe, pour aller au cinéma, mit son vêtement de bure. On le prit pour un valet de culture étranger, un immigrant vomi par le couloir de Danzig. Il avait demandé une première.
« Toi, pas bon, » lui fut-il répondu. Et il n'eut qu'une seconde.
Dans la salle, la nuit était pleine de parfums et d'honneurs. À l'entracte, il aperçut la jeune fille du train omnibus. Elle avait les mêmes yeux noirs, la même peau satinée, que l'héroïne principale de son premier roman. Ému, il s'arrangea pour la coudoyer. Elle le reconnut. Sa lèvre s'allongea et elle passa comme une reine photogénique. Rodolphe, après la séance, s'en plaignit à la vieille.
« Mettez des gants et insistez, » dit-elle.
« D'ailleurs, je puis lui parler. »
« Mais, » s'écria Rodolphe, « n'allez pas croire que j'ai la moindre intention. »«
Insistez, » répéta la vieille. « Elle ne pense qu'à ça, cette petite Hélène. Ça la tient bien. »
Rodolphe s'en retourna au Terminus Hôtel dans l'espoir de bien dîner. Mais il savait à présent que, des deux enfants de Madame Laverdin, l'un s'était présenté par le siège et l'autre, chose encore beaucoup plus rare, par le nez. Et, avec cette grande flemmarde, il fallait toujours tirer. Quant à Laverdin lui-même, il avait large comme la main de poils gris au nombril, parce que sa mère, étant grosse, avait jeté son envie sur un singe dans une ménagerie.
Rodolphe ne nota sur son carnet que l'affaire du poil de singe. Il avait perdu sa journée. Non pas complètement toutefois, car après dîner, le chef de gare et Laverdin lui apprirent la manille bridgée, du moins en principe. Le lendemain, la vieille se trouva encore sur son chemin. Elle lui signala une auberge où il serait très bien. C'était en pleine campagne, à un carrefour de route, du côté de chez Hélène.
« N'oubliez pas que je me moque de votre Hélène, » dit Rodolphe.
Le polytechnicien passait, grand, raide, l'air godiche, déjà comme un savant.
« Il est bottier à pipeau, » dit Rodolphe.
« Je ne vous dis pas le contraire, » répondit la vieille. Mais quand je l'ai eu dans les mains, je l'ai pris pour une fille, et j'avais encore très bonne vue. Jamais il ne vaudra son père. »
Elle insista pour l'auberge, se présenter de sa part.
Là, mais seulement là, Rodolphe trouverait tout ce qu'il faut pour une agréable villégiature. Vous y serez si bien que vous ne voudrez plus retourner à Paris.
C'est possible. Je n'ai pas été tellement heureux à Paris.
Si vous vouliez vous installer par ici, dit aussitôt la vieille, on pourrait aisément trouver votre affaire.
Merci, dit Rodolphe. Nous verrons.
Il entra chez le buraliste. Le buraliste, ancien militaire, musicien, antisémite, était agent de la Société des auteurs et correspondant-rédacteur du Micmac agricole et littéraire. Lettré lui-même, bien entendu délicat, bien entendu adhérent à la Société des gens de lettres. Rodolphe ne trouvait à noter que son propre étonnement. Bon Dieu, vais-je à la fin rencontrer des paysans ? Il alla faire sa valise, paya sa note, les 10%, le sûr pourboire, et prit l'autobus qui le conduisit vers l'auberge en pleine campagne, indiquée par la vieille. Rodolphe déposa donc sa valise et ses espoirs à l'auberge des Nations, Laverdin propriétaire. Mais ce n'était pas le même. Ce n'était ni son frère, ni son cousin, Tonnerre. Celui-ci, honnête homme, Maxime Laverdin. L'autre, Laverdin Poudrette, Laverdin Poil de Singe, ou, pour ceux qui n'aiment pas tortiller du bec pour souffler droit, Sagouin, tout simplement. Rodolphe dîna dans la salle Wilson. La patronne était extrêmement opulente. La bonne venait de Vieliska. Elle avait été conçue, disait Laverdin, à 150 mètres au-dessous du niveau du sol, dans une galerie des Salines. Sa robe cachait un peu plus que la nature. Elle disait des énormités sans le faire exprès. Très pieuse. Quand sa vaisselle fut lavée, un commis voyageur luxembourgeois, qui vendait du saindoux synthétique au charcutier de village, l'emmena dans sa chambre pour lui faire répéter le pater en français.
« Tout cela vaut-il la peine d'être noté ?» se demanda Rodolphe.
Les puces de garde interdisaient le sommeil. Rodolphe ouvrit sa fenêtre et aussitôt la referma sans bruit. Un homme traversait la route, un fusil à la main, et s'enfonçait dans une meule d'ombre sur quoi pleuvait le clair de lune. Dans la chambre voisine, le luxembourgeois, en ses oraisons, ne se doutait de rien. Rodolphe nota un titre possible du chapitre 1. Un crime dans la nuit. Il éteignit la lumière, revint sur la pointe des pieds à la fenêtre. Il l'ouvrit de nouveau, au ralenti. Le rossignol ne gueulait pas. Un avion furieux passa très bas, évitant cependant le piège de la ligne électrique qui arpentait le pays avec ses 1000 pattes, obélisques de ciment armé. Des bosquets parallépipédiques étaient plantés comme des molaires dépareillés. Les haies découpaient les ombres plates d'un paysage cubiste. La lune ne tenait qu'à un fil, mais le plus proche obélisque, lui soufflant en pleine panse son fluide vertical, la repoussait. Oublié en sentinelle sur le dos d'un coteau, un tripode martien, sentant en ses membres de chair les fourmillements avant-coureurs de la décomposition tellurique, jetait, à intervalles réguliers, vers les étoiles aux rayons convergents, de longs cris d'angoisse et de nostalgie. Et les étoiles clignotaient, échangeant à 300 000 km à la seconde des secrets à 4 dimensions. La nuit, agnostique, n'offrait à un romancier du terroir aucun point d'appui. Elle était hors cadre. Quelques bruissements de fils métalliques et de feuilles sèches semblaient un volapuc hérissé d'intégrales. Mais pas un traître mot de patois. « Je serai journalier dans les fermes, » décida Rodolphe. « Je gagnerai ma copie, ligne par ligne, à la sueur de mon front. » Au déjeuner du lendemain, on lui servit un levrault qui ne venait pas des halles centrales. L'aubergiste, débrouillard, était content de son coup. Sachant à qui il avait affaire, il tira d'un placard une pancarte portant les noms « Chez Maxime »
et il l'accrocha au-dessous de « Nation » pour avoir l'air bien parisien. Puis, il proposa à Rodolphe de tuer, peler et découper un chaton. On en utiliserait les quartiers comme appât pour les écrevisses. De quelle façon occuper son temps de villégiature si l'on ne pêche pas des écrevisses ? Rodolphe allait répondre vertement au sujet du meurtre horrible du chaton et affirmer en outre que, pour le moment, il ne chargeait personne de lui procurer des distractions lorsqu'un gentleman entra. Jeune, très sport. Son auto en arrivant n'avait pas fait plus de bruit qu'une souris. Connu comme le loup blanc de Laverdin, il se présenta à Rodolphe. Il cita deux ou trois bons coins de Paris dont celui-ci n'avait jamais entendu parler. Puis, avec l'aplomb d'un éleveur de cochons argenté, il exposa le but de sa visite. Ayant appris, par un de ses sous-agents, que Rodolphe cherchait à placer des capitaux en province, il venait mettre à sa disposition ses nombreuses relations et son expérience des affaires. La société dont il avait l'honneur d'être le directeur général avait des clients dans toute la France occidentale, en Angleterre, en Amérique, en Espagne. Il se réjouissait de compter bientôt Rodolphe parmi ses clients, parmi ses amis. Il traitait toutes sortes d'affaires, à l'exception des affaires véreuses. Que désirait Rodolphe ? Louer ? Acheter ? Échanger ? On pouvait lui offrir, avec toutes les garanties désirables, des maisons villageoises ou de maîtres, des castels, des châteaux forts, des ruines pittoresques, des hangars métalliques, des chalets de bois, des hôtels pour sanatoria ou pour colonies de vacances, des terres volantes ou avec bâtiments d'exploitation, des fermes, des métairies, des bois giboyeux, des étangs poissonneux, des landes transformables en aérodromes et encore des fonds de commerce, bars, cinémas, dancing. « Avez-vous, interrompit ironiquement Rodolphe, avez-vous des... « Nous en avons, dit l'autre avec force, et des maisons de rendez-vous bourgeoises, des fabriques de meubles antiques, de vieux tableaux, vieilles faïences, armes préhistoriques. « Je ne veux rien, interrompit encore Rodolphe, rien que prendre contact avec un vrai paysan. « Vous êtes servi, dit l'autre. « Je suis l'homme que vous cherchez. » Il se frappa le front. « Ah ! J'ai une magnifique affaire de vitraux de chapelle. Si elle vous intéresse, arrêtez-la au vol, car la chapelle pourrait être classée. C'est à 15 kilomètres. Venez-vous ? » « Merci, dit Rodolphe. « Je voudrais planter ma tente chez des paysans authentiques, comme on en voit encore à Paris aux fêtes régionalistes. » « Vous demandez la lune, » dit le gentleman, qui éprouva le besoin de boire deux doigts de Porto. « Vous demandez la lune, » repêcha-t-il avec souplesse, « et je vous donne le soleil, assurance contre l'incendie, les accidents et le vol. Nous assurons également sur la vie. Voici d'ailleurs le barème. Sans indiscrétion, quel âge pouvez-vous avoir ? 28 ? 30 ? 29, 50 ? Dit Rodolphe. « Nous disons 29. Eh bien, moyennant un versement annuel de 472 francs, première combinaison, ou de 722 francs, deuxième combinaison, vous assurez à vos héritiers pas de ça, dit Rodolphe. Alors, troisième combinaison, ne versez francs qu'un multiple de 725 et nous vous garantissons, laissez-moi votre carte. » dit Rodolphe pour avoir la paix. « Si je me décide, je vous ferai signe. » Il empocha 15 prospectus. Le gentleman parti, Rodolphe demanda « Qui est-il ? Il se dit paysan. Il nous la baille belle. »« Non, dit Laverdin. Ce vieux Louis, il a été valet de charrue jusqu'aux cloches de la mobilisation. » Laverdin ajouta « Bon, ce n'est pas tout ça. Il faut que je tue le chat. » Rodolphe se précipita derrière lui pour empêcher ce crime. Mais un cycliste arrivait. un bonhomme d'une belle soixantaine, chauve comme une nichée de rat. Il avait des jambières, une culotte de cheval, une veste à carnier et tenait à la main un chapeau de basse Bretagne, moins les rubans. Mains calleuses, front jauni, air pauvre mais honnête. « Enfin !» pensa Rodolphe. « Celui-ci doit patoiser. »« Monsieur, » dit le nouveau venu, « souffrez que je me présente. Marquis Hugues Grandbert des Grenivelles, lieutenant de Louveterie. »« Y a-t-il des loups en ce pays ?» demanda Rodolphe, décidé à ne plus s'étonner de rien. « Il y en a !» répondit le marquis. « On peut toujours espérer, en outre, qu'un hiver rigoureux nous amènera des loups montagnards, par bandes affamées. Mais le pays présente bien d'autres ressources. Je suis mieux placé que personne pour vous assurer, monsieur, que la bête puante y pullule. »«
Tant que ça ?» fit Rodolphe.
« C'est comme j'ai l'honneur de vous le dire. Et si vous voulez me confier vos intérêts ?»«
Quels intérêts ?» demanda Rodolphe.
« Je puis, » dit l'autre, « vous procurer, à des prix défiant toute concurrence, des chiens, des armes, des équipements, des munitions et tous engins. Je puis vous trouver un terrain de chasse qui soit véritablement un terrain de chasse. Nul, j'ose le dire, n'est plus qualifié que votre serviteur pour ce genre d'affaires. Est-ce vrai, Laverdin ?
Oh, aussi vrai que je n'ai de ma vie tenu un fusil, assura le braconnier.
Je le crois, dit Rodolphe, mais je dois vous avouer tout de suite que vos chasses métropolitaines ne m'intéressent plus beaucoup. J'ai chassé le tigre du Laos et la panthère d'Afrique, monsieur le marquis.
Vous êtes mon maître, dit le lieutenant de Louveterie en s'inclinant.
Mais il avait plus d'un tour dans sa poche carnier. Il en tira lui aussi des paperasses. Lui aussi pouvait combiner toutes sortes d'affaires. Il ne faisait d'ailleurs ce métier que pour éloigner une neurasthénie menaçante et obliger son prochain. Pas de commission. Pourvu que ses frais fussent payés, il n'en demandait pas davantage. À propos de frais, avec moi, jamais d'ennui du côté de l'enregistrement. J'ai, Dieu merci, des relations.
Laissez-moi votre adresse, dit Rodolphe. Je réfléchirai à tout cela.
Vous ferez bien, dit l'autre. Mais rien ne s'oppose à ce que vous contractiez dès maintenant une assurance sur la vie.
Il était, lui aussi, assureur.
Libéré, Rodolphe demanda. Est-il vraiment marquis des Grenivelles ?
Marquis et gueux, répondit Laverdin. Aussi sûr que je suis sûr de pêcher mon sang d'écrevisse avant minuit si le temps se maintient orageux.
Mais il faut que je tue le chat.
« N'en faites rien, misérable !» s'écria Rodolphe.
« Alors, il faudrait une tête de mouton ou des sardines. Oh, les sardines sont chères. »«
C'est moi qui paie !» dit Rodolphe péremptoire.
Hélas, la polonaise dévouée tenait déjà le chaton mort entre deux doigts par le bout de la queue. Rodolphe se retira dans sa chambre. En vrai parisien au petit cœur sensible, il ne nota que le crime de la polonaise. Rien pour le roman paysan. Le dîner fut servi encore bien plus tôt que de coutume. Rodolphe mangea seul dans la salle Wilson. Malgré les 14 points, il eut, avec plaisir, livré Varsovie aux soviets. La polonaise sanguinaire qui le servait avait pour lui seul des yeux d'ange. Soudain juif d'adoption, il repoussa avec horreur une côtelette de porc, et, dès le dessert, les soins de cette bourrelle pieuse. Il regrettait Sophronisbe et, pour la première fois, Paris.
« Le bon moment pour l'écrevisse, dit Laverdin, c'est entre 21h et minuit. Il est temps que nous partions. »«
Taisez-vous, s'écria Rodolphe. Vous me dégoûtez, boucher de chat.
Pour vous faire plaisir, dit l'autre. « Je n'emporte qu'une tête de mouton et des sardines pourries. Je vous ferai manger le chaton de lait à vous-même quand il sera attendri. »
Rodolphe n'avait nulle envie d'aller passer la nuit sur le bord d'un ruisseau. mais la perspective de rester seule et faible entre la patronne et la polonaise l'effrayait davantage.
« Je crois savoir, dit-il, que la pêche nocturne est interdite. »«
Avec moi, rien à craindre, répondit Laverdin. »
Il avait, comme le marquis, des relations. Rodolphe, d'un pas résigné, suivit l'aubergiste à travers champs.